Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui à la fois la fête de la dédicace des basiliques des saints apôtres Pierre et Paul, et aussi le sixième dimanche après l'Épiphanie. Il y a donc une grande richesse de textes. Et je voudrais choisir certains points pour nous aider à méditer et à utiliser cette richesse des textes liturgiques. Dans l'évangile de la dédicace d'une église, on trouve l'histoire de Zachée. Zachée était un chef de publicain très riche, assez détesté et méprisé par les juifs. La plupart de ces gens qui avaient une grosse fortune avaient gagné leur fortune surtout par des choses déshonnêtes, en chargeant beaucoup trop leurs clients. Et notre Seigneur Jésus-Christ passe dans cette ville de Jéricho. Et Zachée, nous dit l'Évangile, cherchait à voir qui était Jésus. Et il en était empêché par la foule parce qu'il était fort petit. Cette recherche de Jésus était sans doute naturelle au début. Il avait entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ et donc voulait, avec une certaine curiosité, le voir. Mais notre Seigneur va, par sa grâce, transformer une recherche naturelle en une recherche surnaturelle. Courant donc en avant de la foule, il monta sur un sycomore pour le voir, car il devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'ayant vu, lui dit, « Zachée, hâtez-vous de descendre, car aujourd'hui c'est chez vous qu'il me faut loger. » Zachée s'empressa de descendre et le reçut avec joie, ce que voyant tous murmuraient, disant qu'il était allé loger chez un pécheur. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai fait tort à quelqu'un en quoi que ce soit, je lui rends quadruple. » Jésus lui dit, « Aujourd'hui, le salut a été accordé à cette maison, puisque celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il est très facile d'adapter ce magnifique évangile à notre histoire. Car l'histoire de Zachée, c'est un peu notre histoire. Qui était Zachée? Zachée est assez connu en France. Il est connu sous un autre nom. Zachée est connu comme étant l'homme qui aimait Dieu. Et le lieu où il a vécu est très connu. C'est le lieu du rocher de l'homme qui aimait Dieu, Rocamadour. En effet, Zachée était l'époux de Sainte Véronique. Et après la conversion de Zachée, après la mort, la résurrection, l'ascension de notre Seigneur Jésus-Christ, Zachée et son épouse Sainte Véronique sont partis, envoyés par Saint Pierre, et sont allés en Gaule, vers l'Aquitaine. À Rocamadour, Zachée est resté sur place. Et pour ceux qui connaissent Rocamadour, en haut du grand escalier magnifique, il y a un sarcophage. Et ce sarcophage contenait le corps de Zachée qui malheureusement a été détruit à la Révolution. Quant à son épouse, Sainte Véronique, dont le véritable nom en fait était Bérénice ou Bernice. Sainte Bérénice, après avoir laissé son époux, qui avait voulu vivre comme ermite à Rocamadour, Sainte Bérénice est partie vers l'Aquitaine, vers Bordeaux. Elle a commencé à évangéliser toute la Gascogne. Elle est enterrée dans le Bordelais. Ses reliques sont là-bas. Alors, il y a beaucoup de choses à noter dans cet évangile. Les pères de l'église font remarquer que Zachée, qui monte sur l'arbre, le sycomore, représente l'église catholique qui monte sur l'Église juive. L'Église juive sert de racine en quelque sorte, de moyen de soutien à l'Église catholique, parce que l'Église catholique vient de l'Église juive au début. Vous savez que l'Église de l'Ancien Testament, c'est l'Église juive qui va mener au Nouveau Testament, lequel est le testament de l'Église catholique. Donc l'Église catholique a ses racines en l'Église juive et c'est représenté par le fait que Zachée, qui va se convertir au catholicisme, grimpe sur la religion juive pour voir notre Seigneur Jésus-Christ. S'il reste au niveau de la religion juive sur terre, il ne voit pas. Donc il faut monter. Alors il y a un terme, une phrase très importante pour nous. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui sait tout parce qu'il est Dieu, il sait que Zachée est caché dans le feuillage du sycomore. Alors il s'arrête en dessous, il lève la tête et lui dit, « Zachée, hâtez-vous de descendre, car aujourd'hui c'est chez vous qu'il me faut demeurer, qu'il me faut loger. » Alors, posons-nous cette question toute simple, en quel sens et comment cette phrase s'adapte-t-elle à chacun d'entre nous? D'abord, notons que le texte latin dit bien « In domo tua et portet me manere » « Dans ta maison, je dois demeurer. » Cette maison, c'est l'âme, notre âme. C'est pas simplement la maison de Zachée. Et notre Seigneur Jésus-Christ ne veut pas simplement entrer dans la maison, il veut demeurer dans la maison. Donc il reste dans cette maison. Notre Seigneur Jésus-Christ ainsi veut rentrer dans notre âme et demeurer dans notre âme. Et nous aussi, nous sommes un peu comme Zachée, nous avons peur de voir notre Seigneur Jésus-Christ un peu d'une certaine façon. Alors on monte sur l'arbre pour se cacher dans le feuillage. Et notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous connaît, s'arrête et nous dit, « Mon ami, aujourd'hui, c'est chez vous qu'il me faut demeurer, qu'il me faut loger. » Combien de fois, nous aussi, nous sommes passés un petit peu à côté de notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est notre Seigneur Jésus-Christ qui nous apostrophe. Notre Seigneur Jésus-Christ qui nous dit, « Je veux venir chez vous. » c'est chez vous qu'il me faut loger, qu'il me faut demeurer, c'est l'invitation à la sainteté. Notre Seigneur Jésus-Christ frappe à la porte, il ne va pas enfoncer la porte comme un voleur, il demande à rentrer avec l'intention de rester, de demeurer dans cette habitation. Alors pose-nous la question toute simple, si notre Seigneur Jésus-Christ me demande, me dit, m'invite, c'est chez vous qu'il me faut loger, qu'est-ce que je vais répondre? Est-ce que je vais dire à notre Seigneur Jésus-Christ, écoutez, actuellement vous me dérangez un petit peu, revenez plus tard, pour le moment je suis trop occupé avec des choses très importantes. Ou est-ce que, au contraire, est-ce que je veux ouvrir ma porte pour inviter notre Seigneur Jésus-Christ à pénétrer dans mon âme et y rester par l'état de grâce? Il est un autre point important. L'Évangile dit, Zachée s'empressa de descendre et le reçut avec joie. Il nous faut, nous aussi, mes bien chers frères, recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, mais pas contraint et forcé, il faut le recevoir avec joie. Est-ce que je reçois notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que j'ouvre ma porte d'abord? Est-ce que j'accepte que notre Seigneur Jésus-Christ demeure chez moi? Et est-ce que je l'accepte avec joie? Ou est-ce que je me dis, j'aurais préféré qu'il ne vienne pas? Bon, évidemment, il est là, je peux faire autrement, donc je l'accueille. Mais je préférais qu'il ne soit pas là, parce que si notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans ma maison, il va commencer à tout fouiller, à vérifier tout ce qui se passe. Et c'est vrai que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ rentre dans une maison, il vérifie si tout est en ordre dans la maison. Et s'il constate que certaines choses ne sont pas à leur place dans la maison de notre âme, notre Seigneur Jésus-Christ va dire quelque chose, parce qu'il est Dieu, et qu'il est le grand patron. Il est un troisième point important dans cet évangile de Saint-Luc, chapitre 19. La conclusion, le Fils de l'homme, notre Seigneur Jésus-Christ, est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Pour comprendre cette phrase, il faut la mettre en parallèle avec une autre phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis venu, non pas pour les bien portants, mais pour les malades. Donc le Fils de l'homme qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu, c'est le Fils de l'homme qui vient chercher et sauver le pécheur. Les pécheurs repentants. Notre Seigneur Jésus-Christ est d'abord venu pour les pécheurs. C'est pour eux qu'il vient sur la terre. C'est pour eux d'abord qu'il s'est incarné. Et c'est pour eux qu'il va souffrir et mourir sur la croix. C'est vrai que même les grands saints ne pouvaient pas aller au ciel sans passer par notre Seigneur Jésus-Christ. Cependant, en soi, notre Seigneur Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Les deux termes sont importants. D'abord, il cherche, puis il sauve. Il cherche parce que il est le bon berger, et il veut que toutes les brebis soient réunies dans le même troupeau, pour qu'il y ait qu'un seul troupeau, qu'un seul pasteur. Donc il va chercher une par une les brebis, il les amène dans le troupeau, et après, il veut les sauver. Donc il ne s'agit pas simplement de les amener dans le troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ, mais il faut qu'elles restent dans le troupeau de notre Seigneur Jésus-Christ pour pouvoir sauver leurs âmes. Donc essayons de voir un petit peu, de réfléchir pendant cette messe, réfléchir à ces trois points. D'abord, premier point, c'est chez vous qu'il me faut demeurer. Est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est toujours le bienvenu dans mon âme? Est-ce que je m'arrange pour que non seulement il rentre dans mon âme, mais qu'il y demeure? Deuxièmement, Zachée le reçut avec joie. Est-ce que je reçois notre Seigneur Jésus-Christ avec joie surnaturelle? Est-ce que j'ai cette paix, cet abandon à la divine providence? Les gens qui ne sont pas capables de recevoir notre Seigneur Jésus-Christ, de le garder chez eux avec joie, sont les gens qui ne croient pas en sa miséricorde. Et enfin, notre Seigneur Jésus-Christ est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Je fais partie de ceux qui ont été, que notre Seigneur Jésus-Christ est venu chercher parce qu'il veut me sauver. Nous pouvons également, mes bien chers frères, aller chercher aussi certains points de méditation dans l'évangile du sixième dimanche après l'épiphanie. C'est l'évangile de saint Matthieu au chapitre 13. Et là, notre Seigneur Jésus-Christ va nous parler encore du royaume de Dieu. Lorsque notre Seigneur Jésus-Christ dit à Zachée, je veux venir chez vous, il veut venir et demeurer chez Zachée, parce que le cœur de Zachée va devenir le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Lorsqu'une âme est en état de grâce, cette âme devient un petit bout de paradis. Et donc l'évangile du sixième dimanche après l'épiphanie va correspondre à cela en nous parlant justement de ce royaume des cieux. Et notre Seigneur Jésus-Christ nous donne deux comparaisons. Le royaume des cieux est semblable à un grain de sénévé qu'un homme a pris et semé dans son champ. Et ensuite, le royaume des cieux est aussi semblable au levain qu'une femme a pris et mêlé dans trois mesures de farine jusqu'à ce que toute la pâte soit levée. Et on retrouve exactement la même idée. Ce champ, c'est notre âme, encore une fois. Et dans notre âme, notre Seigneur Jésus-Christ, le grand entrepreneur, le grand agriculteur, celui qui est propriétaire du champ, il va venir pour planter le grain de sénévé, c'est-à-dire planter la grâce sanctifiante. Par le baptême, notre Seigneur Jésus-Christ place en notre âme une vie divine. Donc une vie qui va passer par la souffrance de la passion pour arriver à la gloire de la résurrection et de l'ascension. Et cette grain de sénévé, cette grâce sanctifiante que notre Seigneur Jésus-Christ a plantée dans notre champ, il ne s'agit pas simplement qu'elle demeure comme ça sans grandir. Non, qu'est-ce que veut notre Seigneur Jésus-Christ? Il veut que cette semence croisse. En tant que telle, c'est la plus petite de toutes les semences. Parce que la grâce de Dieu, lorsqu'elle arrive dans une âme, elle arrive dans l'âme par le baptême, extérieurement, ça ne se voit pas. On ne voit pas dans le physique de l'enfant un changement quelconque après le baptême. Et pourtant, cette grâce sanctifiante est venue dans l'âme de l'enfant. C'était comme un éclair extraordinaire, un coup de tonnerre extraordinaire qui va transformer complètement cette âme qui, avant le baptême, était enfant du démon et qui va devenir, après le baptême, enfant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et lorsque cette graine de la foi, cette graine de la charité, cette graine de l'espérance, cette graine de la grâce sanctifiante, lorsqu'elle a cru, elle est plus grande que toutes les autres herbes. Elle devient un arbre, de sorte que tous les animaux, les oiseaux du ciel, viennent habiter sur ses branches. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais le bon Dieu veut que cette grâce croisse comme un arbre. Si la graine reste en terre et ne croit pas, notre Seigneur Jésus-Christ n'est pas content. Il veut que cette graine puisse croître. Il faut donc que la grâce sanctifiante qui est en nous, qui va rester en nous de façon cachée, je dirais, et parfaite, pendant toutes les premières années de notre vie. On dit, c'est sans doute vrai, que notre ange gardien pleure toutes les larmes de sa nature le jour où son protégé commet son premier péché mortel. Eh bien, c'est un petit peu ça. Donc notre Seigneur Jésus-Christ, il veut quoi? Il veut que, au lieu de commettre un péché, perdre la grâce sanctifiante, cette grâce sanctifiante se développe, devienne un arbre. Et que les vertus qui vont suivre la grâce sanctifiante puissent se développer de plus en plus afin que les oiseaux du ciel puissent venir habiter sur ces branches. Toutes les vertus, tous les dons, tous les fruits du Saint-Esprit qui sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ, n'oublions pas qu'avec la grâce sanctifiante, qui est la vertu de charité, il y a ce qu'on appelle la couronne de la grâce sanctifiante. Qu'est-ce que c'est que cette couronne de la grâce sanctifiante? Ce sont toutes les choses qui tournent autour de la grâce sanctifiante, comme les dons du Saint-Esprit, comme les fruits du Saint-Esprit. Et donc, il faut vraiment demander à notre Seigneur Jésus-Christ la grâce que notre champ soit bien préparé, le champ de notre âme soit suffisamment bien préparé, parce que lorsque notre Seigneur Jésus-Christ vient pour y planter cette graine, eh bien, par les bons soins du jardinier, du grand jardinier notre Seigneur Jésus-Christ, du petit jardinier que nous sommes, eh bien, par les soins de ce jardinier, cette graine puisse progresser, puisse grandir et devenir un arbre. Cet arbre, représente l'esprit apostolique de cette âme, l'augmentation en nous de la foi, de l'espérance et de la charité. Rappelez-vous la parabole des talents. Le bon Dieu exige que nous fassions fructifier ces talents, c'est ce que représente cet arbre avec les oiseaux du ciel qui viennent habiter sur ses branches. Lorsqu'une âme remplit son rôle missionnaire dans l'église, à sa place qui est la sienne dans l'église, eh bien cette âme va pouvoir abriter, donner abri à beaucoup d'autres âmes. Lorsqu'une âme fait son devoir d'état devant Dieu, cette âme va aider d'autres personnes autour de l'âme, à elle aussi rencontrer notre Seigneur Jésus-Christ. On dit, c'est un proverbe, c'est très vrai, que lorsqu'une âme va au ciel, en général, elle ne va pas toute seule. Elle emporte pas mal d'autres âmes dans ses poches. Mais là, lorsqu'une âme tombe en enfer, elle ne tombe pas toute seule non plus. Lorsqu'une âme tombe en enfer, eh bien, elle va y tomber avec beaucoup d'autres arbres, beaucoup d'autres âmes, notamment les enfants, accrochés au basque de cette âme qui tombe en enfer. Il faut que les parents qui m'écoutent réfléchissent à ces choses-là et comprennent leur grande, grande responsabilité. Et notre Seigneur Jésus-Christ reprend la même idée. Le royaume des cieux est semblable au levain qu'une femme a pris et mêlé dans 3 mesures de farine. De même que la farine mêlée à l'eau ne peut pas monter, transformer en pain s'il n'y a pas la levure. Pourtant la levure, ça semble très peu de choses, il y a beaucoup plus de farine que de levure. Eh bien cette levure va permettre au pain de lever, à la farine de se transformer en pain. Eh bien cette levure c'est quoi? C'est la même chose, c'est encore la grâce sanctifiante. La grâce sanctifiante qui va agir sur l'âme comme la levure agit sur la masse de la pâte. Alors posons-nous cette question, mes bien chers frères, il y a beaucoup de questions à se poser à propos de ces évangiles. Posons-nous la question, est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est venu planter, qui a planté sa grâce dans mon âme, qu'est-ce que j'en ai fait de cette grâce? Est-ce que j'étais fidèle à cette grâce, que j'ai préparé cette grâce pour qu'elle, ce champ, pour qu'il reçoive correctement la grâce, ou est-ce qu'au contraire, j'ai fait du n'importe quoi, et la grâce, au lieu de rentrer dans mon, pouvoir pénétrer dans mon âme et fructifier dans mon âme, elle n'a pas trouvé de place parce que il y avait des ronces, parce qu'il y avait des rocs, des rochers partout, la terre était trop sèche, alors la grâce est partie. Craignons, mais bien cher frère, la grâce qui passe une fois, qui ne repasse pas. Et là, encore une fois, ce levain qui fait monter la pâte, eh bien, représente aussi l'esprit apostolique. Le bon Dieu nous le dit expressément, c'est dans l'évangile, dans l'épître du sixième dimanche après l'épiphanie. C'est l'épître de Saint Paul aux Thessaloniciens. Il est dit cette belle phrase. Notre Seigneur Saint Paul parle de ceux qui se sont convertis à Dieu, abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre du ciel son Fils qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous a délivrés de la colère à venir. Saint Paul nous demande d'abandonner les idoles, celui qui qui voit son âme fructifier et qui voit cette transformation du grain s'élever en un champ, en un arbre qui va porter tous les oiseaux du ciel, eh bien, ce levain qui fait monter la pâte représente justement l'abandon des idoles du monde pour pouvoir servir le Dieu vivant et vrai. Ce levain qui monte, qui fait monter la pâte, cet arbre qui croît à partir de la petite graine de Sénévé, représente justement la conversion personnelle. Abandonner les idoles du monde, abandonner les concupiscences du monde pour servir notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu vivant et vrai. Et je voudrais conclure avec un autre texte. Un texte que nous avons dans le bréviaire. Dans le bréviaire de chaque jour, il n'y a pas simplement le commentaire de l'évangile du jour, mais il y a aussi une lecture de l'Ancien Testament. En ce moment, nous sommes dans le livre de Daniel. Et il y a un passage magnifique qui s'applique tout à fait à ces deux évangiles que je viens de commenter rapidement. C'est l'histoire de Balthazar. Balthazar était le roi de Chaldée, le fils de Nabucodonosor. Et il faisait un jour un grand festin en buvant du vin dans les vases sacrés qui avaient été volés par son père Nabucodonosor à Jérusalem lors de la prise de Jérusalem. Et il était avec toutes ses concubines et tous ses amis en train de festoyer dans une orgie gigantesque. Et voilà qu'un des doigts mystérieux écrivirent sous le nez et les yeux de Balthazar trois mots mystérieux sur la paroi. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça lui a coupé complètement l'appétit et qu'il s'est demandé ce qui se passait. Pour que veulent dire ces mots? Il ne comprenait pas ces mots parce que ces mots étaient écrits dans une langue inconnu de Balthazar et de ses satrapes. Alors, il est allé chercher Daniel, un fils des Hébreux, qui a une grande culture et qui avait le don d'interpréter les songes. Alors, il va le voir, il lui dit, voilà, est-ce que vous êtes capable d'interpréter cela? Je vous couvrirai d'or et d'argent si vous le faites. Et Daniel lui dit, vous pouvez garder vos dons, je n'en ai pas besoin. Par contre, je vais vous interpréter, parce que ces trois mots qui sont écrits sur les murs, je peux les lire parce qu'ils sont écrits dans ma langue. C'est de l'hébreu. Mané, Tessel, Phares. Mané, compter, Tessel, peser, Phares, diviser. Votre âme a été comptée et il s'est trouvé qu'il manquait beaucoup de choses dans cette âme. Votre âme a été pesée sur la balance de la justice de Dieu et cette âme, votre âme a été trouvée trop légère. Alors votre âme sera divisée et vous allez tout perdre. Et Balthazar ne s'est pas mis en colère devant cette interprétation très forte contre lui, parce qu'il savait que c'était la vérité. Et le texte de Daniel nous dit que le soir même, la ville fut prise par Mèdes, par les Mèdes. Le roi des Mèdes, qui prit la place de Balthazar et Balthazar fut tué. Eh bien, c'est un peu notre histoire, mais bien, cher frère, encore une fois. Notre Seigneur Jésus-Christ, un jour, recevra notre âme entre ses mains. Elle sera comptée, elle sera pesée, et si elle est trouvée trop légère, elle sera divisée et renvoyée dans le feu éternel. Alors, vérifions un petit peu la balance ici-bas. Nous avons une balance ici-bas et il nous faut peser notre âme pour être sûr qu'elle pèse un bon poids devant Dieu et que Dieu ne sera pas obligé de faire avec nous ce qu'il a dû faire avec Balthazar, le détruire. Demandons, mes bien chers frères, demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à méditer toutes ces choses, à préparer nos âmes pour que nous puissions vraiment accueillir notre Seigneur Jésus-Christ comme Zachée a accueilli notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, avec joie. Pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse rentrer avec sa grâce sanctifiante dans notre âme et transformer cette âme en faisant lever la pâte de notre âme, en faisant grandir la graine de Sénévé, symbole de la grâce sanctifiante, pour qu'elle devienne un arbre et que notre âme, si elle est comptée et pesée, ne soit pas divisée. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ se sera reconnu dans cette âme. Il y aura vu aussi sa très sainte mère dans l'âme. Demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider, justement, à être toujours prêt à passer devant notre Seigneur Jésus-Christ. Et si notre Seigneur Jésus-Christ voit sa mère dans notre âme, alors il accueillera cette âme avec beaucoup de bonté à cause de l'amour infini qu'il a pour sa mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.